toujours sa promesse. Ce qu'il a dit hier, il accomplit. Donc, que nous soyons dans l'allégresse et dans l'assurance que nous n'adorons pas un Dieu sourd, un Dieu muet, un Dieu incapable. Mais notre Dieu est le véritable. Alléluia. Viens vous asseoir, nous prions. Dieu de grâce, effectivement, tu tiens ta promesse. Et tu donnes toujours cet esprit de radiesse, de force et d'amour pour que tes enfants recevant cette grâce puissent être témoins partout. Comme tu le l'as dit, et jusqu'aujourd'hui, cela se réalise pour nous également. Maintenant, Père, c'est par cet esprit que nous pourrons comprendre la parole que nous venons de lire afin de l'appliquer. Viens et enseigne-nous, Père, de sorte que nous te comprenions, nous te recevions et nous vivions avec ta parole au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est l'un des grands jours de la vie chrétienne, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Et ce jour, l'Église nous a donné trois tests avec un thème intéressant. Le thème, c'est le Saint-Esprit et les langues de mission. Le Saint-Esprit et les langues de mission. Dans le verset 3 de Actes chapitre 2, on lit ceci. Et il leur apparut des langues divisées dans la version Darby, divisées comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils reçurent ces langues de feu, chacun de sa part, et tous se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous nous situons au 50e jour après la célébration de la Pâque, la célébration de la délivrance du peuple d'Israël par Moïse. Nous nous situons dans cette commémoration où le peuple d'Israël doit se rappeler de ce que Dieu a fait. Dieu, dans sa grâce, a demandé au peuple d'avoir trois grandes fêtes, les fêtes juives. La première, c'est la Pâque. La deuxième, c'est celle dans laquelle nous sommes, qui est appelée la fête de moisson ou bien la fête des récoltes. Alors, la fête de moisson ou bien la fête des semaines, voilà. Ou bien la fête des semaines, parce qu'il fallait compter des semaines et arriver au jour, au 50e jour de la Pâque et puis fêter. Et la troisième fête, c'est la fête des récoltes, appelée aussi la fête des tentes ou bien la fête des tabernacles. Voici les trois grandes fêtes juives que Dieu a prescrites à son peuple dans le livre de Lévitique. Et le peuple devait observer cela. Et le peuple les observait. C'est vrai qu'à un moment, le peuple a tué ces choses, mais il y a eu encore des rois qui sont venus, des prophètes qui ont réveillé cela. Et le peuple continuait de fêter. Jusqu'au temps de Zacharie, où le peuple était sorti de la captivité. Et le peuple, dans la joie, a délégué deux hommes de Juda pour aller vers Zacharie, le prophète, pour lui demander, dans Zacharie chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 3, demander à Dieu, tu nous demandes de jeûner. Tu nous demandes de nous lamenter pour nous rappeler comment est-ce que nous avons souffert. Nous voulons savoir, maintenant que nous sommes guéris de toutes ces choses, où nous vivons maintenant la prospérité, est-ce que nous devons continuer de jeûner et pleurer? Parce que manger la Pâque, certes, c'est la délivrance, mais c'est se rappeler aussi des temps difficiles. Bien-aimés, dans Zacharie, quatre mois ont été cités. Le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois et le dixième mois. Septième mois et dixième mois, pardon. Et chaque mois était significatif. Dans le quatrième mois, Dieu a demandé au peuple de se rappeler de ce qui s'est passé dans la prison de Jérusalem. Comment est-ce que Babylone a pris Jérusalem? Et comment est-ce que le peuple d'Israël a souffert de cette prise-là? Donc, il fallait se rappeler de cela. Le cinquième mois était comment est-ce que les murailles ont été touchées, effondrées. Donc, le cinquième mois, c'était pour se rappeler de ce que Guédalia, bon, un gouverneur que Nebuchadnezzar a placé là, est mort. Nebuchadnezzar a demandé que tout le monde jeûne. Et donc, à chaque année, il devait avoir ces jeûnes-là. Et chaque mois était significatif. Mais puisque le peuple est sorti de la captivité, puisque le peuple, c'est comme s'il y avait une réconciliation entre eux et Dieu, donc la joie est revenue, est-ce que le peuple doit continuer de jeûner? Voici la question que la délégation est venue poser au prophète Zacharie. À partir du verset 4 de ce chapitre 7 de Zacharie, Dieu leur dit que vous dites que vous ne voulez plus jeûner, mais quand vous jeûniez, pendant que vous jeûniez, au moment où vous étiez en train de jeûner, est-ce que vous jeûnez véritablement selon mes recommandations? Pour vous, c'était devenu des rituels. Pour vous, c'était devenu la tradition, la coutume. On doit jeûner. Mais est-ce que vous obéissiez à ma parole? Parce que ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Et l'obéissance qui signifie, qui amène l'homme à vivre selon les recommandations de Dieu. C'est pourquoi dans le chapitre 8 que nous avons lu, il a dit, mais soyez en paix et parlez selon la vérité. Parce que son désir, c'est que son peuple cultive la paix et marche dans la vérité. Alors Dieu va dire au peuple, vous allez continuer de jeûner, mais vous n'allez plus jeûner pour pleurer comme si vous étiez des esclaves, mais vous allez jeûner et vous réjouir parce que Dieu vous a délivré. Alléluia. Parce que Dieu vous a délivré. Mais au-delà de ces temps de jeûne, il dit, en le faisant, il y aura des gens qui vont venir vers vous. Il y aura des gens qui vont vouloir connaître votre Dieu. Ils vont venir jusqu'à Jérusalem. Des gens de toute nation, de toute race, vont se rassembler à Jérusalem. 10 vont aller attraper la robe d'un seul juif pour dire que tout le monde va chercher les juifs pour leur demander où se trouve votre Dieu. Nous, on veut connaître votre Dieu parce qu'on a appris que votre Dieu est le véritable. Alléluia. Et cette parole s'accomplit maintenant dans la fête de la Pentecôte. À l'ère 33 de notre ère, juste après la mort, la résurrection, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en 2021. Avant d'arriver à 2021, on a compté l'an 1, l'an 2, jusqu'à l'an 33. Cette parole qui a été dite par Zacharie dans l'Ancien Testament s'est accomplie à l'an 33 de notre ère. Effectivement, à ce jour, au moment où au moment où les disciples, les 120, c'est-à-dire il y avait les disciples et puis il y avait d'autres qui étaient avec eux, tous étaient dans la chambre haute, il s'est trouvé que ce jour-là, Dieu a voulu montrer une chose particulière. Bien-aimé, Dieu a choisi son jour. Il n'a pas pris n'importe quel jour. Il a dit que les hommes vont quitter les différents lieux. Ils vont quitter leur nation. Ils vont quitter leur région. Et ils seront à Jérusalem. Il a choisi le lieu. Il a choisi le temps pour réaliser ce qu'il avait dit depuis Zacharie. Les hommes sont venus effectivement à cette fête qui marque les prémices de la moisson. Parce que ce jour-là, tous ceux qui viennent doivent venir avec les prémices de leur moisson. Ce qu'ils ont récolté, venir avec les prémices. Dieu choisit ce jour pour marquer une chose, pour dire que le Saint-Esprit qui sera reçu ce jour-là sera le prémisse de l'héritage, les prémices de l'héritage qu'il donne à son peuple. Les prémices, c'est-à-dire dans tout l'héritage de bonheur, de gratitude ou de salut que nous recevons de Dieu, voici le premier élément, le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Parce que la parole est claire, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. À partir de quoi est-ce que toi-même tu reconnais que tu es enfant de Dieu? Qui parle dans ton cœur que tu es enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le premier élément, c'est pourquoi l'Église est née à partir de l'effusion du Saint-Esprit. À partir de l'effusion du Saint-Esprit. Dieu choisit ce jour pour donner le premier élément, la prémisse de la moisson. La moisson, j'allais dire, je veux aller encore dans la parole de Jésus, dit, vous allez moissonner là où vous n'avez pas semé. Nous n'avons pas semé, mais nous moissonnons. Jésus-Christ est mort, voici notre moisson. La vie éternelle, c'est la moisson que nous recevons, mais qui a semé cela? C'est Dieu lui-même qui a semé sa chose. Et le premier élément que nous recevons de cette grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de posséder le salut. À quel moment Dieu permet que ce soit ce jour pour, j'allais dire, pour faire coïncider dans sa préscience. Parce que la coïncidence, qu'on peut dire coïncidence naturelle, n'existe pas. Si j'ai dit coïncider, c'est dire Dieu a mené la chose par son conseil, par sa volonté, il a mené la chose à cette date. Et effectivement, tout le monde était là. Et voici que le Saint-Esprit va descendre pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils ne s'attendaient à rien. Jésus ne leur a pas dit à la Pentecôte, vous recevrez. Jésus leur a dit, vous restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit à la Pentecôte. Mais Dieu a voulu que ce soit à la Pentecôte. Alors, dans cette chambre haute, pendant que tous étaient là, le Saint-Esprit descend à leur grande surprise. Et tous étaient étonnés. Eux-mêmes qui ont reçu ne s'attendaient pas à cela. La Bible dit, cela est venu comme des langues de feu. Des langues de feu. Ce sont des symboles. Parce que ce qui doit se passer par la suite, comme notre thème le dit, il dit, le Saint-Esprit est les langues de mission. Ce qui doit se passer par la suite doit se faire voir à travers des langues. Et Dieu donc fait, il envoie son esprit sous forme de langues. Des langues de feu qui viennent se poser sur chacun. La Bible n'a pas dit que toutes ces langues-là se sont déposées sur une seule personne, non. Même si par la suite, c'est l'apôtre Pierre qui a pris la parole, mais n'était pas le seul. La Bible n'a pas dit chacun a reçu et puis maintenant il a partagé aux autres, non. C'est chacun, quand Dieu a envoyé, chacun a reçu. Aussi nombreux qu'ils étaient, chacun a reçu. La Bible dit tous étaient dans la chambre et tous ont reçu. Ils ont reçu cette langue. Et c'était dans quel. Les signes qui ont accompagné cela étaient aussi forts. C'était comme un vent impétueux, c'est-à-dire un vent violent, un vent rapide qui vient pour ravager leur peur, ravager leur timidité, ravager tout ce qu'ils avaient en eux qui pouvait les empêcher de se lever. Ce vent est venu balayer et imposer un nouvel ordre. C'est de recevoir la puissance de Dieu qui va les conduire à une chose. Ils reçoivent cela. Et comme quand le feu te brûle, tu ne peux pas rester tranquille. Il y a des mouvements que tu fais. Ça les a tous propulsés et ils étaient dans les rues en train de prononcer ou encore de propager la parole. Le Saint-Esprit est les langues de mission. Et les langues de mission. Chacun a reçu une langue particulière. Tous ceux qui les entendaient étaient étonnés. Parce que chacun se disait, mais ils sont tous des Galiléens. Alors, quelle est la particularité des Galiléens? Les Galiléens, vous savez, en Israël, peut-être chez nous aussi on le fait. Hein? Peut-être même, on le fait même dans Abidjan, dans le quartier, dans tout Abidjan là. Il y a ceux qui sont ici, il y a ceux qui sont là, se connaît. Quand on dit, hey, c'est fou. Quand on dit à Bobo, il vient à Bobo. Effectivement, quand on dit les Samaritains, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les Juifs les ont déjà classés, ceux-là ne connaissent pas Dieu. Quand on dit les Galiléens, c'est les paysans. Des gens qui ne sont pas cultivés. Des gens qui n'ont pas une assise intellectuelle véritable. C'est les Galiléens. Alors ils disent, mais tous ceux qui sont en train de parler sont des Galiléens. Pourquoi leur étonnement? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas réellement cultivés pour comprendre d'autres langues. Comment se fait-il qu'ils parlent d'autres langues? Ils ont appris ça quand et où? C'est là le problème. Quand ils ont dit, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ce n'est pas parce qu'ils venaient d'une seule région, ils devaient parler la même langue. Mais quand même, quelqu'un qui vient de tel endroit comprend une autre langue. Il peut comprendre aussi vrai ou faux. Vrai. Alors, s'ils ont dit, ils ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est pour voir leur culture, leur background. Ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Mais c'est ces gens-là. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit, il va utiliser les faibles pour confondre les grands. Et c'est ce qu'il a fait. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans sa langue maternelle? Dans notre langue, dans nos langues maternelles. Comment est-ce qu'on peut les entendre dans nos langues? Souvenez-vous, dans Zacharie, Dieu a dit, ils vont venir de partout. Et ici, on nous cite à ceux qui sont venus. Ce n'est pas d'une seule région. Jusque de l'Égypte, de la Pamphylie, il y a des Crétois. Donc, il y a des gens qui parlent le Crétois. Il y a des gens qui parlent le Pads. Il y a des gens qui parlent le Mède. Il y a des gens qui parlent quoi? Les Romains, italiens, c'est ça, non? Le Grec. Il y a des gens qui parlent ceci, qui parlent cela. Et ils étaient nombreux. Ce sont des Juifs. Mais comme ils sont dans ces endroits, un Juif qui est né chez les Agnis là-bas, ses parents ont vécu là-bas jusqu'à Hébreu, mais ils ne comprennent plus bien. Le Juif va comprendre l'Agni. Est-ce que c'est faux? Même s'ils comprennent l'Hébreu, l'Hébreu sera agnisé. C'est biaisé, ça tire sur la nuit. Bien-aimés, ils disent qu'on les entend dans nos langues maternelles. Dans nos langues maternelles. C'est des miracles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux tous n'étaient pas des Juifs. La Bible nous parle des prosélytes. Il y avait au milieu d'eux des prosélytes. Les prosélytes, c'est toute autre nation qui a accepté la religion juive. Donc, ils ne sont pas juifs, mais ils ont accepté la religion juive. Ça ne fait pas d'eux des juifs. Mais eux aussi les entendent dans leur langue. Chose étonnante. Dieu a dit, 10 vont aller attraper la robe d'un seul juif et lui demander, apprends-nous à connaître ton Dieu. Parce que nous savons que ton Dieu est le véritable. Et le véritable se présente ici aujourd'hui. Voici les merveilles que Dieu fait. Tous étaient étonnés. Et dans leur étonnement, il y a ceux qui peuvent bien se moquer. Ils sont pleins de vin doux. Ça, là, c'est-à-dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout. Et que tu sois assis. Et que tout montre que c'est Dieu qui a fait. Il y a quelqu'un qui va dire ça. Là, il est parti chez féticheur. Il y aura au moins quelqu'un qui va dire ça. Ça là, il est allé prendre son babadji. Ça là, forcé, il y a quelqu'un qui va dire ça. Mais si tu veux écouter ça, et si tu veux t'arrêter sur ces éléments, bien-aimé, tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ton salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est la langue de mission. Dieu bénit l'homme pour une mission. Dieu te donne un talent pour une mission. Il t'offre une grâce pour une mission. Quand Dieu s'offre à toi, c'est vrai que c'est toi qui as reçu. C'est vrai que la chose est en toi. Mais la chose est à partager. C'est en cela qu'on te dit, il faut être riche. Riche dans le Seigneur. Et il faut être pauvre dans tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que tu ne sois pas à manifester la méchanceté, l'égoïsme. Et au-delà, tu es en train de cultiver la pauvreté. Mais la richesse, c'est que ce que tu as, tu puisses partager. Et c'est là ce que Dieu... Sinon, ils ont entendu... Ils ont reçu ces choses. La peur pouvait les amener, même si les portes sont ouvertes, même si c'est en train de les pousser. Et comme on le voit, il y a beaucoup qui reçoivent des dons. Il faut voir dans les veillées. Le frère vient la soeur. Et je vais partir. Je suis fatigué. Seigneur, pardonne-moi. Je m'en vais. Je vais partir. Seigneur, je vais faire. Je vais faire. Il faut les voir même leurs mains, leurs yeux. À la veille prochaine, ils vont dire la même chose. Ils n'ont même pas bougé d'un iota. Il faut faire 10 veillées. La même parole, ils vont répéter. Sinon, quand ils s'en vont, il n'y a plus à faire de venir tomber ici et là. Mais quand ils tombent, c'est que ce sont des rebelles. ils veulent pas partir. Un homme de Dieu, il dit, il faut les laisser. Il faut les laisser, ça là, on ne prie pas pour eux. Ils sont en train de gérer leurs choses entre leur Dieu et eux-mêmes. Les langues, le Saint-Esprit et les langues de mission. Quand les hommes ont reçu, les disciples ont reçu ces dons, ils se sont mis en mission. De la même manière, Jésus a envoyé les 70 disciples en mission. Quand ils sont partis et qu'ils ont accompli leur mission, ils sont revenus, ils étaient en joie. Jésus dit, vous voyez les démons, mais moi j'ai vu leur maître lui-même. Vous voyez, ces petits en train de fuir. Moi, depuis le ciel, j'ai vu leur maître, il est tombé. Ce n'est même pas qu'il est descendu, il est tombé. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel, tomber. Quand on te dit que quelqu'un est tombé, c'est que c'est pas venu de lui-même, mais c'est toute la honte. C'est son impuissance. Il a été terrassé, c'est toutes ces choses. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Mais il a dit, ne vous réjouissez pas simplement parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Et souvenez-vous qui étiez avec nous. Et le jeudi, nous avons dit, les dons spirituels se cultivent et s'exercent dans l'amour. Et dans l'humilité. C'est là. Il faut que tu sois humble pour pouvoir prononcer, sinon exercer les dons que Dieu a mis en toi. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, ce n'est pas que les démons te sont soumis, mais que ton nom soit écrit. Parmi les 70, certainement Judas était dedans. Lui aussi, il a vu les démons qui lui étaient soumis. Est-ce que, en fin de compte, il est rentré dans le ciel? Les dons spirituels sont là pour édifier l'assemblée. Mais nous faisons des choses de sorte, dans notre marche, dans notre manière d'adorer notre Dieu, nous amenons le Saint-Esprit à s'éloigner de nous. Ou bien à nous utiliser comme de simples instruments et puis d'après quelqu'un nous jeter après. Pourquoi? Parce que nous partons travailler avec nos personnes. C'est nous que le Saint-Esprit c'est en nous que le Saint-Esprit habite. C'est nous qui sommes les spirituels, les spirits. Et quand on chante, et quand Yeshua va prendre la parole, la parole va commencer. Saint-Esprit, viens, tu vas voir, mais descends. Saint-Esprit, viens. C'est toute sa personne. C'est tout son être. Je bénis le Seigneur si cela est sur la vérité. Et si cela est dans la sincérité, s'il n'y a pas d'orgueil dedans, réjouissez-vous. Dieu dit dans Zacharie, quand vous jeûniez, quand vous recevez l'Esprit, quand vous exercez les dons, est-ce que vous les faites par obéissance ou bien pour vous faire voir? Moi, je vais un peu devant. Est-ce que c'est par obéissance? Est-ce que c'est parce que vous savez que Dieu veut vous utiliser et vous vous laissez être utilisé? Est-ce que vous suivez sa voix? Des gens sont en train de faire de la délivrance. Et puis, rien ne se passe. Il faut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de délivrance? Certainement, il y a un blocage quelque part, Dieu va révéler. Ce que nous constatons, c'est que même on peut faire délivrance maintenant avec chicotte. Vous dites, quand vous promenez, vous ne voyez pas. Ou on prend chicotte, vous n'avez jamais vu. Prends chicotte. Bon, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça? Ce n'est pas la chair qui va faire quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui agit et qui règle ses comptes. C'est le compte entre Dieu et celui qui l'a créé et qui ne veut pas lui obéir. C'est le compte entre les deux. Toi, tu es un instrument qu'il veut utiliser. Accepte d'être un simple instrument. Tu n'as rien d'autre à voir dedans. Un simple instrument. Réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le ciel. Mais comment est-ce que ton nom sera écrit? Par l'obéissance. Il t'a fait un don. Tu dois l'utiliser. Ici, c'est les langues. C'est pour cela que la parole a mis l'accent sur les langues. Mais vous le savez, il y a plusieurs dons. Mais je voudrais aussi revenir sur l'affaire des langues. Quand ils sont descendus, qu'ils ont commencé à prêcher la parole, la Bible dit, ils disaient des merveilles de Dieu dans ces différentes langues. Qu'est-ce que nous sortons de nos langues? Quelles sont les merveilles que nous sortons? Les merveilles de qui? Quelles sont ces merveilles et les merveilles de qui? Nous devons donc faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Nous avons vu le vendredi, le jeudi, que Dieu va nous juger à partir de nos paroles qui sortiront de nos bouches. À partir de ces paroles, nous serons soit condamnés, nous serons soit justifiés. Nous devons donc faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. La langue, l'apôtre Jacques nous dit, c'est le plus petit membre, mais qui est très dangereux. Comme un feu, il est capable d'embraser toute une forêt. Nous devons savoir utiliser nos langues. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu nous met en mission à partir de la langue qu'il a mise dans nos bouches. Et cette mission doit s'accomplir partout où nous sommes. Nous ne devons pas être des chrétiens à l'église et puis des païens dans nos entreprises. Nous ne devons pas être des chrétiens à l'église et puis des païens dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux de vie. Nous ne devons pas être des chrétiens. Alors, souvent, quand on s'en va faire des dossiers, c'est là même on sait qui est qui. Même devant le monsieur, on oublie que nous, on transporte le Saint-Esprit. On oublie ça. On ment. On ment devant celui qui doit nous faire nos dossiers. Moi, mais je devais être quelque part. Moi, mais je suis pressé. Moi, mais pourtant, tu quittes ici, tu rentres à la maison. Tu es pressé par rapport à quoi? Et nos langues deviennent des instruments pour nous condamner. Faisons attention. Quand les disciples sont allés prêcher, à leur retour, ils ont fait le compte rendu et Jésus leur a dit, soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans le livre de Dieu. Et partout où nous passons, de la même manière dont dans Esaïe, il a dit, Dieu a dit, les gens vont venir de partout, de cette même manière, partout où nous passons, nous avons tout ce monde-là autour de nous. Nous avons tout ce monde-là autour de nous. L'apôtre dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons ce monde-là autour de nous. Tous les Crétois, tous les Grecs, tous les Égyptiens, nous les avons autour de nous qui n'attendent qu'une parole sorte de nos bouches ou bien que nous posions une action qui va les conduire au Père. Nous sommes donc des témoins. Nos actions, nos paroles doivent les conduire au Père. On ne te demande pas de t'arrêter dans un endroit pour prêcher. Ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas forcément que tu vois ton ami Jésus t'aime. Ce n'est pas forcément ça. Parce que toute la journée, tu ne vas pas rester là à dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. La seule phrase qui va sortir de ta bouche toute la journée, non, ce n'est pas ça. Tu auras d'autres choses à dire. Mais ce que tu vas dire doit être la vérité. Et cela doit édifier l'autre qui est à côté de toi. C'est pour cela qu'il faut mesurer les paroles qui doivent sortir de ta bouche. Quelqu'un va aller soulever maître. Attends, la parole qui va sortir là, je vais commencer. Ça va sortir à partir de quoi? On va commencer à mesurer. Et puis on va tirer. Non. Il faut faire attention à ce que tu vas sortir de ta bouche. Que Dieu lui-même, qui a donné les dons à chacun de nous. Et là, moi, j'en suis convaincu. Vous savez, nous sommes dans un champ, dans la vigne de notre Dieu. Tu ne vas pas au champ pour croiser les bras, pour regarder les herbes et les animaux manger, tout ce que tu as, quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un qui plante. Toi, peut-être, c'est pour désherber. Et tu croises les bras, et puis voilà, les herbes vont monter jusqu'à couvrir ce que l'autre a planté. Chacun a sa portion et chacun a son rôle. Dans l'église, Dieu nous a établis ainsi. Dans une église, chacun a sa portion, c'est-à-dire ce qu'elle doit faire et où est-ce qu'elle doit faire cela. Sa portion, son rôle. Si je ne le sais pas, que je demande à Dieu, il va me le révéler. Si je le sais, que je me mette au travail. Si je ne peux pas, je demande à Dieu, il va me donner ses forces. Les disciples ne pouvaient pas au départ. Ils ont reçu la force et ils se sont mis au travail. Que Dieu nous accompagne donc par son esprit. Et que tout ce qu'il a mis en nous, il nous donne de l'extérioriser, de l'exposer pour le bien de nos entourages et pour le salut de tous ceux qui nous côtoient. Au nom de Jésus. Amen.